chapitre 41. Becker est debout avant le lever du soleil. Il se sert un café et sort de la maison avec sa tasse pour découvrir un monde limpide, parfaitement nettoyé. La tempête est finie. L'air est frais, chargé de sel. Becker s'installe sur le banc en bois qui fait face au continent, et là, pendant une demi-heure, il admire en silence le ciel au-dessus des collines à l'est, qui passe d'un orange flamboyant à un jaune foncé. À un moment, il se retourne et constate que la maison semble briller de mille feux. Les rayons du soleil matinal se reflètent sur les fenêtres de la cuisine. C'est marée haute, la surface de l'eau séparée de lueurs dorées. Mais peu à peu, les couleurs s'estompent et les derniers nuages se désagrègent, laissant place à un ciel d'un bleu azur. Il a tout juste terminé son café quand il entend la porte d'entrée. Quelques instants plus tard, Grace apparaît, la cafetière à la main. Elle s'approche et, sans un mot, remplit sa tasse avant de s'asseoir à côté de lui.
« Sacrée tempête !»
commente-t-elle enfin. Et elle lui jette un rapide coup d'œil avant de se concentrer sur la mer.
« Vous avez réussi à fermer l'œil cette nuit ?»«
J'ai bien dormi, merci. » répond-il un peu sèchement avant d'ajouter sans la regarder. « Vous n'auriez pas vu mes clés de voiture par hasard? Je ne sais pas ce que j'en ai fait. »«
Non, ça ne me dit rien. » Elles sont peut-être tombées dans la chambre de Vanessa quand on a capturé le goéland. J'irai vérifier tout à l'heure. Peut-être qu'elles ont glissé sous le lit.
Elle marque une pause et Becker sent qu'elle lui lance des regards à la dérobée.
Est-ce que ça vous dirait de monter au rocher aujourd'hui?
Finit-elle par demander. Je n'aurai pas le temps, il faut encore que je charge la voiture et je...
Oh, c'est dommage!
L'interrompt-elle.
Pour une fois que la météo s'y prête...
Becker consulte sa montre.
Vous ne pourrez pas traverser avant plusieurs heures,
ajoute Grace.
J'ai l'impression que l'Internet n'est toujours pas rétabli. Mais si vous voulez passer un coup de téléphone, vous trouverez peut-être un peu de réseau en allant du côté de la forêt. Souvent, ça capte là-haut.
Becker grimace. Il répugne à le reconnaître, mais Grace a raison. Il est coincé sur l'île pendant encore un bout de temps, et il y a de grandes chances qu'il n'ait pas l'occasion d'y revenir de sitôt. Et puis, il a très envie de prendre en photo les endroits où Vanessa aimait poser son chevalet. Et il a aussi très envie de parler à Elena. Il se tourne vers Grace, qui lui sourit timidement en attendant sa décision. L'espace d'un instant, il la revoit telle que la première fois qu'il l'a rencontrée, une vieille femme, seule et effrayée. Il pense à l'acharnement dont il a fait preuve pour retrouver le petit tableau auquel sa mère tenait tant, et il se radoucit. Qu'a-t-il à reprocher à Grace, au juste? Comme lui, elle refuse simplement d'abandonner les rares souvenirs qui lui restent d'une personne qu'elle aimait plus que tout. Je ne serais pas contre admirer la vue depuis le sommet du rocher. Cède-t-il.
Ah, parfait!
S'exclame Grace soulagée.
On peut faire une petite promenade si vous voulez. Passer par la falaise,
ajoute-t-elle en désignant un point sur la côte sud de l'île, légèrement à l'ouest de la maison.
C'est par là. C'est là-bas que Vanessa a peint Sud et Obscurité. Vous verrez, le panorama est extraordinaire.
Après une tasse de café supplémentaire et quelques tranches de pain grillé, ils entament leur promenade. Ils marchent d'un pas tranquille, Grace s'arrêtant régulièrement pour jouer les guides touristiques. Voici la crique où Vanessa adorait prendre le soleil. Voilà l'endroit où Douglas Lennox s'est battu un jour avec un des amants de Vanessa. Et tenez, ici, ce sont les vestiges d'une ancienne habitation. L'ascension est raide mais régulière. Soudain, au détour d'un fourré d'ajoncs, Becker découvre une clairière qui semble avoir été conçue pour accueillir un chevalet. Un sol plan, un espace protégé du vent par des buissons et une vue à 180 degrés sur la mer et les îles au sud d'Eris. Grace a pris un peu de retard dans la montée, si bien que Becker dispose de quelques instants pour profiter seul du lieu. Et là, bercé par le cri des mouettes et le bruit des vagues qui se brisent sur les rochers en contrebas, il retrouve la même sensation que la veille au soir, lorsqu'il a aperçu par hasard Totem dans la chambre de Vanessa. Il est euphorique. Il est heureux et il a l'impression de découvrir quelque chose qu'il a toujours connu. Il n'a jamais mis les pieds dans cet endroit et pourtant, il l'a déjà vu des centaines de fois, au lever et au coucher du soleil, en été et en hiver, sous un ciel bleu comme aujourd'hui et sous un ciel gris et lourd de menaces.
« Ne vous approchez pas du bord, surtout !»
l'avertit Grace qui vient de le rejoindre. Elle a du mal à reprendre son souffle et son visage rougi par l'effort est luisant de transpiration. Pendant quelques minutes, elle regarde Becker prendre des photos et, même si elle ne dit rien, il perçoit la tension qu'elle irradie, tandis qu'elle scrute ses moindres mouvements. Lorsque Becker a terminé d'immortaliser la clairière sous tous les angles possibles, ils redescendent du promontoire avant d'emprunter sur la gauche un chemin creux qui grimpe de manière régulière entre un talus assez raide d'un côté et la lisière de la forêt de l'autre.
« Certains des sapins ici ont plus de 200 ans »,
lui apprend Grace.
« Il en reste peut-être même d'encore plus vieux, mais la majorité d'entre eux est tombée lors des grandes tempêtes qu'on a eues dans les années 1990. »
Au bout d'environ un quart d'heure d'ascension, le portable de Becker se met à vibrer de manière répétée. Du réseau, enfin. Il a reçu des messages, raté plusieurs appels. Il se retourne et, constatant qu'il a 200 ou 300 mètres d'avance sur Grace, décide d'en profiter pour appeler Elena. Il prend une profonde inspiration, compose le numéro et pousse un juron de frustration lorsqu'il tombe directement sur le répondeur. Il raccroche et consulte ses messages vocaux. Le premier remonte à la veille au soir.
« Beck, mon chéri !»
commence Elena d'une voix légèrement tremblante.
« Il faut vraiment que je te parle. Est-ce que tu peux me rappeler ?»
La gorge nouée, Becker essaie à nouveau d'appeler sa femme, sans plus de succès. Soit elle est déjà en communication, soit son téléphone est éteint. Il écoute le message suivant reçu quelques heures plus tôt, au petit matin.
« Coucou !»
La voix d'Elena est douce à présent, presque un murmure. La même voix qu'elle utilise quand elle doit annoncer une mauvaise nouvelle à sa sœur, ou lui dire quelque chose qu'elle n'a pas envie d'entendre.
« J'ai essayé de t'appeler par WhatsApp, mais je n'arrive pas à te joindre. Et j'ai l'impression que tu n'as pas non plus reçu les messages que je t'ai envoyés. Écoute, il s'est passé quelque chose. »
Le cœur de Becker se fige.
« Je te rassure, je vais bien, le bébé va bien. Non, c'est Emmeline. »
Pas de quoi paniquer, donc.
« Elle est tombée, on ne sait pas encore précisément ce qui s'est passé. Peut-être un AVC ou bien une crise cardiaque. »
La bonne nouvelle.
Sébastien n'était pas sur place quand c'est arrivé. On était ensemble à la maison. Il était venu discuter.
L'enthousiasme retombe.
On est allé à l'hôpital de Berwick. Les médecins pensent que l'élément déclencheur a été une visite de la police. Des inspecteurs se sont présentés dans la soirée au domaine pour poser des questions à Emmeline au sujet de Douglas. Apparemment, ils ont reçu un appel anonyme, leur assurant que ce n'était pas Graham Bryant qui avait tiré. Seb a l'air de penser que la police ne prend pas cette allégation au sérieux, mais bon. Appelle-moi dès que tu auras ce message, d'accord? Sans faute?
Rares sont ceux à Fairburn qui connaissent la vérité sur la mort de Douglas. Ils se comptent même sur les doigts d'une main. Cependant, aux yeux de Becker, il n'y a qu'une seule personne qui peut être l'autrice de cet appel anonyme. Et elle se trouve à quelques dizaines de mètres derrière lui, progressant difficilement sur le sentier.
« J'ai de quoi rendre la vie de ces gens infernale »,
a-t-elle dit la veille.
« Vous avez téléphoné à la police »,
s'écrie-t-il lorsque Grace arrive à portée de voix et la résidente de l'île s'arrête sur le bord du sentier, les mains sur les genoux, essoufflée.
« C'est ça que vous faisiez hier soir dans la chambre de Vanessa, pas vrai? Vous avez appelé les enquêteurs pour leur parler d'Emmeline Lennox. »
Grace se redresse. Elle a les joues rouges, mais c'est uniquement à cause de l'effort. L'expression qu'elle arbore n'est que pure insolence.
« Je vous l'ai dit, je ne crois pas à la thèse de l'accident »,
lâche-t-elle. « Bon Dieu !» s'exclame Becker, les poings serrés.
« Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?»«
Ce que vous n'avez pas eu le cran de faire !»
rétorque-t-elle, le menton relevé en signe de défi.
« Douglas était une crapule. Ce n'est pas pour autant qu'il méritait d'être assassiné. »
Trop en colère pour répondre, Becker repart.
« Je vous ai rendu service !»
insiste Grace en lui emboîtant le pas.
« Vous m'avez confié qu'Emmeline s'évertuait à vous causer du tort, à vous et à votre femme. Beck !»
l'implore-t-elle, et Becker a un frémissement de dégoût en l'entendant utiliser son surnom.
« Nous sommes du même côté, vous et moi. Nous voulons les mêmes choses. »
Il finit par se retourner, et avec tout le sang-froid qu'il est capable de rassembler, réplique. « Ça m'étonnerait, Grace. Et si ça ne vous dérange pas, je préfère terminer cette promenade seule. » Il se remet en marche d'un pas rapide en direction du sommet. Il est furieux. Furieux contre lui-même en premier lieu, car c'est lui qui a laissé échapper qu'Emmeline avait tiré le coup fatal. Lui qui a mis si longtemps à comprendre que le manque d'affection dont souffre Grace relève de la pathologie, et que la solitude qu'elle éprouve a déformé sa perception de leurs interactions, la façon dont elle les voit, tous les deux. Comme s'il pouvait y avoir un « tous les deux », songe-t-il avec répulsion. Après un début d'ascension en pente douce, le sentier devient plus raide, jusqu'à se perdre dans un pierrier assez impressionnant, si bien que lorsque Becker atteint enfin le sommet, il est en nage et à bout de souffle. Devant lui s'étend une grande dalle de granit plate qui surplombe la mer d'Irlande, plusieurs dizaines de mètres en contrebas. Becker inspire une grande bouffée d'air iodé avant de s'avancer à pas prudents vers le bord du précipice. Le vent est froid, le ciel parfaitement dégagé. À mi-distance, il distingue de petites îles à la forme familière. Au loin, l'horizon forme une ligne bien définie qui semble tracée à l'encre de Chine. Son visage s'illumine peu à peu d'un grand sourire, et le cœur léger, il oublie un instant tout le reste pour se concentrer sur cette vue à couper le souffle. Cet endroit grandiose qui a façonné le style de Vanessa. Car c'est ici qu'elle s'est confrontée à l'impossibilité de peindre la mer. Ici qu'elle a enfin fait corps avec sa fibre expressionniste. À présent qu'il se trouve au sommet du rocher d'Eris, Becker comprend enfin pourquoi la plupart des marines de Vanessa sont si petites. Escalader ce promontoire avec un chevalet et une toile de grande dimension aurait été d'autant plus périlleux que le vent qui souffle au sommet n'aurait pas manqué de tout emporter, à commencer par Vanessa elle-même. Alors elle a choisi de peindre de petits aperçus, des instantanés, denses et riches, remplis d'amour, de désir et de terreur. Becker s'approche un peu plus du bord. Avec mille précautions, il s'assoit, les pieds dans le vide. Il sort alors son portable et compose à nouveau le numéro d'Elena. Elle décroche à la deuxième sonnerie.
« Je suis désolé, »
marmonne-t-elle mal réveillée.
« Je vois que tu as essayé de m'appeler. »«
Oui, mais ne t'en fais pas, » répond-il avec douceur. À présent qu'il entend le son de sa voix, il se sent rassuré. « Comment ça va ?»«
Ça va, j'ai encore un peu de mal à réaliser, mais ça va. Finalement, je n'ai pu rentrer à la maison qu'à 4 heures du matin. Donc je suis encore au lit. Et toi, tu en es où ? Sur le chemin du retour ?»«
Pas encore. » Je suis assis sur le rebord d'une falaise pour ne rien te cacher, au sommet du rocher d'Eris. Je regarde la mer.
Oh, génial!
Becker peut presque entendre le sourire dans la voix de sa femme.
Fais attention à ne pas tomber, hein?
Ajoute-t-elle, et Becker éclate de rire. Et donc, reprend-il après une courte pause, qu'est-ce qui s'est passé avec Emmeline? Tu disais qu'elle était seule chez elle quand c'est arrivé? Une nouvelle pause. Il entend Elena prendre une grande inspiration.
« J'avais demandé à Seb de venir à la maison. »
lâche-t-elle.
« Mais ça aussi, je te l'ai dit dans le message, non ?»
Becker ne répond pas.
« Je lui avais demandé de venir parce que j'estimais qu'il était temps qu'on discute de notre situation. »«
Comment ça ?»«
Ça ne marche plus, Beck. »«
Non, Elena, » murmure-t-il. Il a presque envie de basculer vers l'avant, de se jeter dans le vide. « Je t'en prie, ne dis pas... »«
Je parle du fait qu'on habite à Fairburn, pas de nous deux, enfin. D'ailleurs, tu vois, c'est l'illustration parfaite du problème. » « Tu n'as pas confiance en moi, et je veux que tu me fasses confiance, j'en ai besoin. » Mais entre Seb qui est tout le temps dans nos pattes et Emmeline qui s'escrime à vouloir tout saboter, tu te méfies et je ne peux pas t'en vouloir. C'était une belle idée de vivre ensemble tous les trois de manière civilisée et adulte, mais je crois que c'est quelque chose qui ne fonctionne que dans les films français. Dans la réalité, c'est trop dur.
Becker s'allonge sur le dos, les yeux plissés pour se protéger de la luminosité. Le soleil lui réchauffe les joues. Il a le goût du sel sur les lèvres. « D'accord, » dit-il. « Alors partons. »«
On n'est pas non plus obligé de tirer un trait sur tout. Tu pourras continuer à travailler à Fairburn. On s'est mis d'accord avec Seb et... »«
Vous vous êtes mis d'accord ?»«
Je préférais voir les choses avec lui avant de t'en parler. »
Becker laisse échapper un nouvel éclat de rire. « Tu es vraiment la reine des conspiratrices, » s'esclave-t-il. Pendant quelques secondes, il écoute la respiration de sa femme et le bruit de la mer.
« Rentre, s'il te plaît. »
finit par dire Elena.
« J'ai besoin de toi. On a besoin de toi. »
Lorsqu'il se relève, il se sent tellement léger qu'il a le sentiment qu'il lui suffirait de sauter à pieds joints pour que le vent l'emporte comme une feuille morte. Un goéland passe en rase-motte au-dessus de sa tête. Becker se baisse, rit et regrette qu'Elena ne soit pas là pour voir ça. Pour le voir, lui, sur l'île de Vanessa, sur son rocher sacré. Même si la conscience qu'elles ne rendront jamais grâce à la majesté du lieu, il se remet à prendre des photos par dizaines, avant de se rappeler qu'il n'a pas fini d'écouter ses messages. Il joint à nouveau son répondeur.
Becker !
Cette fois, il s'agit de Sébastien, un appel très tôt dans la matinée. Il a l'air préoccupé et un peu essoufflé.
Bon, écoute, j'imagine que Lena t'a tenu au courant, mais On a eu un week-end assez chargé ici, avec Emmeline qui s'est retrouvée aux urgences. J'ai l'impression qu'elle se remet doucement, mais elle nous a fait très peur. Là, je suis encore à l'hôpital, j'attends de voir le médecin, mais je voulais t'avoir au téléphone parce que le labo m'a envoyé un email vendredi. Avec tout ce qui s'est passé hier, j'étais passé à côté. Je vais te le transférer dans un instant, mais en gros, l'os, c'est bien une côte, provient d'un homme dont l'âge se situerait entre 25 et 30 ans. Apparemment, il y a une marge d'erreur de 7 ou 8 ans, mais bref.
Une pause. Becker entend Sébastien discuter avec quelqu'un, puis il perçoit un autre bruit près de lui. Il se retourne. Grace, qui dans un ultime effort, se hisse sur le rocher. Il recule d'un pas. Au téléphone, Sébastien termine sa conversation et reprend.
« Donc oui, désolé, je disais. Les gars du labo ont aussi déterminé qu'il s'agissait d'un os plutôt récent. Ils n'ont pas encore réalisé tous les tests, mais apparemment c'est quelque chose qu'ils arrivent à voir à partir de la minéralisation ou un truc comme ça. Peu importe le terme. Ils estiment que cet os n'a pas passé plusieurs siècles enfoui sous la terre, mais beaucoup moins. Peut-être même pas 10 ans. Ils vont effectuer une datation au carbone 14, ce qui nous donnera une estimation plus précise de la date de décès. Et ils vont aussi prélever un échantillon d'ADN pour le comparer à celui que leur a fourni la sœur de Chapman. Voilà où on en est. Bref, tu auras compris qu'il y a de grandes chances qu'il s'agisse bien de Julian Chapman. Dès que ce sera confirmé, et ça risque d'arriver assez rapidement, ça va être une véritable tempête médiatique. Donc il faut qu'on s'y prépare. Et vite. Rappelle-moi dès que tu auras un moment, d'accord ?
Becker rempoche son portable. Il se tient au milieu de la dalle à 1 mètre environ du précipice, et 2 du côté opposé par lequel Grace vient d'arriver.
« Je ne pouvais pas vous laisser monter seule jusqu'ici, » dit-elle, le souffle court, en essuyant la sueur sur son visage cramoisi. « S'il vous arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. »«
S'il m'arrivait quelque chose, » s'étonne Becker. « Le pire qui pourrait lui arriver serait de faire un faux pas et de tomber de la falaise. » Mais il ne voit pas en quoi la présence de Grace changerait quoi que ce soit à ce scénario catastrophe. Au contraire, loin de lui être d'une aide quelconque, elle lui bloque désormais le seul accès au sentier qui permet de redescendre du rocher en toute sécurité.
« Tout va bien ?»
lui demande-t-elle en le fixant du regard avec intensité.
« Vous n'êtes pas encore fâché à cause d'Emmeline, j'espère. Je vous l'ai dit, je l'ai fait pour vous et pour Elena. »
Becker ne répond pas. Mais elle a dû lire quelque chose dans ses yeux, ou peut-être a-t-elle remarqué qu'il était soudain très pâle, car son expression change du tout au tout. Elle a compris.
« Oh »
fait-elle.
« C'est l'os, alors ?»«
Oui. »«
Ce n'est pas Julian, »
affirme-t-elle, et Becker ne peut s'empêcher de soupirer. « Si, Grace. Il n'y a pas encore de résultat ADN, mais les gens du laboratoire sont formels. Cette côte provient d'un homme jeune, entre 25 et 30 ans. » À cet instant, il voit, ou croit voir, quelque chose traverser le visage de Grace. Un soupçon de peur. « Et sa mort ne remonte pas à plusieurs siècles, » reprend-il, « mais à une 30aine d'années au maximum. Donc il y a de grandes chances qu'il s'agisse bien de Julian Chapman. » Grace porte une main devant sa bouche. « Maintenant, il faut que j'y aille, » ajoute-t-il en lui faisant signe de s'écarter. « Il faut que je rentre à Fairburn. Les prochains jours s'annoncent chargés. » Dès que le laboratoire aura les résultats de la comparaison ADN, la police sera informée, puis ce sera le tour de la sœur de Chapman, et ensuite, qui sait ce qui se passera ensuite.
« Ce n'est pas Julian, »
répète Grace. Elle n'a plus l'air effrayée, simplement triste, résignée presque, défaite.
« La comparaison ADN ne donnera rien, »
ajoute-t-elle dans un murmure. Et elle fait un pas vers lui, puis un second. « Vous ne pouvez pas en être sûr. » objecte-t-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, avant de reculer prudemment. Elle est trop proche de lui, beaucoup trop proche, et elle continue d'avancer.
« Si !»
insiste-t-elle, et elle lève les deux mains en même temps, comme si elle s'apprêtait à le pousser dans le vide. « Qu'est-ce qu'elle fabrique ?» songe Becker en se recroquevillant sur lui-même. Mais Grace finit par joindre les mains en prière et ajoute.
« J'en suis même certaine parce que, voyez-vous, je sais où est Julian. » Et ce n'est pas dans la forêt.